Audiolib présente Ce monde disparu de Denis Lehane, lu par Michelangelo Marchese. Pour Kix, aux yeux si bleus et au sourire si éclatant. I'm driving a stolen car on a pitch black night, and I'm telling myself I'm gonna be all right. Bruce Springsteen, Stolen Car. Prologue. Décembre 1942. Avant d'être décimés par leur petite guerre, ils se rassemblèrent pour soutenir la grande. Un an après Pearl Harbor, ils se retrouvèrent tous dans la salle de bal Versailles du Palace Hotel dans Bayshore Drive, à Tampa, afin de lever des fonds pour les troupes stationnées en Europe. Ce fut une réception raffinée, en smoking et nœud papillon, par une nuit douce et sans nuages. 6 mois plus tard, par une soirée brumeuse au début du mois de mai, l'un des chroniqueurs judiciaires du Tampa Tribune tomberait sur des photographies de l'événement. Il serait alors frappé par le nombre de personnes mentionnées récemment dans la presse locale pour avoir tué ou été tué, qui avaient assisté à la collecte de fonds. Il penserait tenir un sujet. Son rédacteur en chef ne serait pas d'accord. « Mais regardez, bon sang !» dirait le journaliste. « Regardez ! Là, au bar, c'est Dion Bartolo, avec Rico Di Giacomo. Ici, je suis presque sûr que le petit maigrichon coiffé d'un feutre, c'est Meyer Lansky lui-même. Tenez, le type qui parle à la femme enceinte. Il a fini à la morgue en mars dernier. Et là, c'est le maire et son épouse en grande conversation avec Joe Coughlin. Et sur celle-là, encore Joe Coughlin en train d'échanger une poignée de main avec ce gangster nègre, Montus Dix. Boston Joe, qui a toujours fui l'objectif, s'est fait prendre en photo 2 fois pendant la fête. Et ce gars, qui fume une cigarette près d'Adam en blanc. Il est mort. Pareil pour celui-ci. Quant au type sur la piste de danse, en veste de smoking blanche, il est dans un fauteuil roulant aujourd'hui. Et de conclure, ils étaient tous réunis ce soir-là, patron. Le rédacteur en chef répliquerait que, sous ses allures de ville d'une certaine importance, Tampa n'était guère plus gros qu'un village. Tout le monde s'y croisait tout le temps. La réception avait eu pour but de soutenir l'effort de guerre. À ce titre, elle comptait parmi les causes de rigueur pour les riches oisifs, de celles qu'on se devait de soutenir quand on était quelqu'un. Il ferait remarquer à son jeune reporter exalté que bien d'autres invités à cette soirée, 2 chanteurs célèbres, 1 joueur de baseball, 3 comédiens prêtant leur voix aux feuilletons radiophoniques les plus populaires de la région, le président de la First Florida Bank, le PDG de Gramercy Pewter et même le directeur de leur journal, P. Edson Huff, était totalement étranger au bain de sang qui, en mars, avait entaché la réputation de Tampa. Le journaliste insisterait encore un peu pour s'apercevoir que son chef était inflexible sur la question. Alors, il finirait par reprendre ses recherches sur les rumeurs qui circulaient au sujet d'espions allemands infiltrés sur les docks de Port Tampa. 1 mois plus tard, il partirait au front. Les clichés resteraient dans la morgue à photos du Tampa Tribune longtemps après que tous ceux qui y figuraient seraient passés de vie à trépas. Le reporter, qui mourrait 2 ans plus tard sur la plage d'Anzio, n'aurait aucun moyen de savoir que le rédacteur en chef, appelé à lui survivre encore 30 ans avant de succomber à une crise cardiaque, avait reçu l'ordre de ne plus rien publier sur la famille du crime dirigée par Dion Bartolo, ni sur Joseph Coughlin, ni sur le maire de Tampa. Un jeune homme tout à fait honorable, issu d'une famille tout à fait honorable. L'image de la ville, lui avait-on dit, n'avait déjà été que trop ternie. Quoi qu'il en soit, les participants à cette soirée de décembre avaient tous été conviés, du moins l'avait-il compris ainsi, à une rencontre purement innocente entre gens de bonne volonté, désireux d'aider les soldats américains de l'autre côté de l'Atlantique. C'était Joseph Coughlin, l'homme d'affaires, qui avait organisé l'événement. Parce qu'un grand nombre de ses anciens employés s'étaient engagés ou avaient été enrôlés. Vincent Imbruglia, dont 2 des frères étaient partis se battre, un dans le Pacifique et l'autre quelque part en Europe, personne ne savait où exactement, fut le grand gagnant de la tombola. Ce fut lui qui rafla le lot le plus convoité, 2 places de choix pour le concert que donnerait Sinatra au Paramount à New York à la fin du mois, et voyage en première classe à bord du Tamiami Champion. Tous les invités avaient acheté quantité de billets, même s'ils soupçonnaient que le tirage serait truqué pour avantager la femme du maire,